Déambulation.
Alors je suis devant la cuve de brassage et la cuve de filtre, et il y a un certain nombre de tuyaux un peu partout, des bitonios, des manettes, et est-ce que tu t'y retrouves, Franck?
Oui. Aujourd'hui surtout, au début c'était pas si facile, mais aujourd'hui ça va bien, ouais.
Ah bon?
Tourne petite bière. Voilà. Ça sert donc à faire l'infusion, à faire les cuissons.
Et comment ça marche?
Ouais, ça chauffe, ouais, à plusieurs températures, plein de paliers. Disons que les recettes, ça dépend des paliers, entre autres. C'est-à-dire qu'il faut chauffer les céréales, parce que là, on démarre un peu au milieu, donc on chauffe un peu les céréales. L'infusion, on fait une infusion de céréales avec différents paliers de température, choisis, triés, pour faire certaines bières, c'est pas toujours les mêmes. Et voilà, donc dans cette cuve-là, on fait ça.
C'est un truc qui tourne pour brasser ?
C'est un truc qui tourne pour brasser, pour nous remplacer. Voilà, donc on met les céréales, les mélanges de céréales à différents paliers de température. Puis ensuite, on les passe dans une autre cuve que tu vois à côté, là, qui sert à filtrer et à laver les céréales pour récupérer le maximum de sucre qu'on aura transformé grâce à l'infusion. Et ensuite, ça repasse dans la grande cuve, là. Et là, cette fois, ça boue pendant un bon moment, en gros une heure, avec des houblons pour aseptiser, amériser et puis après aromatiser. Là, j'en suis là, on arrive à la fin, donc du coup, j'en suis là. Là, je viens de tout faire ça, là. Maintenant, je vais transférer ça, tout ce jus-là qui a bouilli avec les houblons, tout ça, libérer les céréales, dans le fermenteur. On peut les voir, si tu veux.
On va les
ça
voir,
ça ressemble
ouais.
À ça, ouais. Non, on va les voir. Ça ressemble à ça, mais le sang chaud, ouais. Il fait plutôt du froid. Voilà.
Oh les grosses machines!
Ça ressemble à la cuve, c'est de l'acier, hein, de toute façon voilà, c'est des cuves en acier. Avec un hublot pour pouvoir mettre les levures, puis ça va pas tout d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est si grand, mais c'est comme ça. Voilà, donc je vais transférer la bière là-dedans. Alors là, elle va fermenter pendant en gros une semaine, 10 jours, hein, ça dépend des recettes toujours. Et puis cette machinerie là, ça sert à maintenir la bière à une certaine température, parce que quand elle fermente, elle a tendance à monter. À augmenter de température. Et il faut qu'elle reste, nous on veut qu'elle reste à une certaine température, bon encore une fois ça dépend des recettes. Hein. Et donc cette machinerie là, ça sert à, si tu veux, ça fait du froid pour ne pas que la bière monte en température. Parce que ça pourrait changer pas mal de choses si elle montait, voire même tuer les levures peut-être, si elle monte trop haut, je sais pas si ça arriverait, mais en tout cas, nous pour certaines recettes, on veut qu'elle reste là ou là ou là, donc on lui demande ça.
Alors je vois trois fermenteurs, vous êtes capable de faire trois brassins en même temps ?
Non, mais trois dans un mois. C'est-à-dire là, moi j'en ai fait un aujourd'hui, j'en fais un demain, puis la semaine prochaine, on en fera encore un, enfin encore deux, je veux dire. Et la semaine suivante, encore deux. Et ensuite, la première qui a été faite du même mois, on peut la transférer ou la mettre en bouteille ou la mettre en garde, ça dépend. Donc c'est pour ça que trois fermenteurs, ça nous permet de tourner sur un mois.
Ça reste combien de temps dans le fermenteur ?
Ça reste une semaine ou 10 jours pour la fermentation elle-même. Ensuite, comme c'est pareil, il fait du froid, on peut faire la garde, ce qu'on appelle la garde. C'est-à-dire il faut la choquer, il faut la faire descendre en température rapidement, autour de 2-3 degrés, pendant peut-être 10 jours. Encore une fois, ça dépend des recettes, ça peut être un peu plus, un peu moins. Bon, ça dépend de... En gros, c'est ça. Donc, elle reste la semaine de fermentation, plus cette semaine, 10 jours, ou de ce qu'on appelle un peu là, c'est pas vraiment une garde, mais bon, ça fait. C'est pour ça qu'il nous en faut 3 pour faire une rotation, si tu veux, sur un mois. Pour, voilà. Il en faudra même un de plus pour être vraiment bien, mais avec ça, ça va quand même.
C'est le même brassin pour ne pas mélanger les recettes, justement.
C'est la même recette, mais c'est pas le même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais remplir celui-là avec la celle que j'ai fait, là. J'ai fait 400 litres. Et demain, je vais même, dans la même cuve, la même recette, si tu veux. Voilà, ça sera pas le même brassin, parce que ça sera un autre que je ferai demain, mais c'est la même recette que je mets dans le même fermenteur. Voilà, du coup...
Il y aura un petit bout qui aura 9 jours de fermentation et l'autre 10.
Voilà, ouais, en gros, ou moins, parce que c'est pas forcément 10 jours, ça dépend. Mais bon, ça a pas d'importance. Mais surtout que là, je vais mettre un peu des levures pour lancer la fermentation, ça va. Et demain... Quand je remettrai de la bière dedans, j'aurai pas besoin de remettre de levure parce qu'elles seront multipliées. J'arriverai au moment où la multiplication sera optimum. Donc du coup, ça économise des levures et ça marche bien comme ça. Quoi. Voilà.
3 petits bitonios, c'est la température.
Ouais. Voilà, c'est ça, c'est la température qu'on lui demande là, tu vois, la première elle est à 3°3, l'autre 6°5 et celle du milieu est encore rien, donc elle a la température ambiante, enfin en tout cas dans l'intérieur. Et ça c'est voilà, c'est pour piloter les machineries qui est en bas qui est super compliqué, ouais. Là je comprends pas grand-chose mais en tout cas ça marche bien quoi. Là, je vais transférer la bière que je viens de bouillir dans le fermenteur qu'on vient de voir. Là, j'ai ouvert la petite vanne qui sert à alimenter le refroidisseur en eau fraîche, parce que cet appareil donc sert à comme je vais transférer la bière qui est très chaude dans le fermenteur, il faut qu'elle soit refroidie parce que sinon ça mettrait trop de temps. Bah, ou si on laissait faire, ça mettrait trop de temps. Et après il y a des risques d'infection et tout ça, et pour mettre la levure rapidement il faut que ça soit dans des températures acceptables, c'est-à-dire entre 18 et 26 degrés quoi. Voilà. Donc moi là elle est à 90 je pense, donc je refroidis avec cet appareil là, je refroidis la bière pour qu'elle rentre dans le fermenteur à une température acceptable pour les levures. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc là je ferme ça, ça fait des bruits de vanne.
Vous avez eu une formation pour vous servir de tout ça?
Ouais, une formation d'une semaine. Les ingénieurs sont venus ici, ils ont monté la machine, puis ils nous ont appris à nous en servir. Enfin, ouais, ça va quoi.
La pompe, bien, c'est pas ça. Vitesse de pompe 90, ça me paraît bien.
Il faut que je vérifie un peu tout avant de lancer les opérations, parce que si on en fait une erreur, ben, c'est trop tard. Rapidement, trop tard, on perd vite fait des litres.
Ah, c'est une activité quand même assez technologique de faire la bière dans une brasserie même petite.
Oh bah oui, quand même, il faut familiariser avec les machines.
Nous sommes à la fin du processus de vidage de la cuve de brassage. Ça a duré à peu près 35 minutes. C'est bien cela, Franck ?
C'est bien ça, ouais. Là, on peut voir au fond de la cuve de brassage le cône de houblon qui reste. Parce que la machine a bien travaillé. On a fait ce qu'on appelle le whirlpool, c'est-à-dire c'est une sorte de vortex qui permet de regrouper au centre tous les houblons qui passent pas dans le filtre. Donc on voit bien là.
C'est plus facile à laver.
Plus ça bouge pas le filtre, surtout sinon ça boucherait tout. Donc c'est un mouvement tournant. On fait tourner la bière dans la cuve comme ça avec la pompe. Et ensuite, grâce à ça, je veux dire, plutôt, le houblon se retrouve au milieu, en un cône, forme de cône, comme ça. Et tu vois, ce qui est aspiré, c'est clair. Bien pensé, c'est bien fait.
Émilie, tu es embauchée aussi par la manivelle ?
Oui.
Et à plein temps ?
Non, à mi-temps.
Quelle est ton affectation au sein de la manivelle ?
Je vends, j'embouteille, j'étiquette, je nettoie, mais je brasse pas. Et c'est tout.
Tu vas peut-être aussi être la tenancière du dépôt de manivelle qui va se trouver sur la place de la cathédrale.
Oui, entre autres. Nico et Franck veulent y travailler, mais je vais y être principalement, oui.
Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? D'emmener donc ?
Une commande à un air de famille, le restaurant de Christine Mur, qui vend donc la manivelle.
Vous avez beaucoup de points de vente comme ça ?
Pas tellement, non. Mais le Pili-Pili, un air de famille, Loco-Loco, le restaurant du Rio Merle. Et puis pour l'instant, je crois que c'est tout, j'espère ne pas me tromper.
Et puis un certain nombre de festivals.
Oui, bien sûr. Tous les ans, on fait le Psycho By Dub, je crois.
La caisse à savon.
Et puis je dois en oublier, mais quelques concerts, des événements qui ne se répètent pas forcément, mais ponctuels, oui.
Donc, et au niveau commercial, alors, tu as des données un petit peu ? Tu sais à peu près si ça décolle ? Parce que comme vous avez des grosses machines et vous êtes capable de faire pas mal de bière, il faut que ça parte.
Alors, ça ne décolle pas tout à fait encore. On y va doucement, mais on progresse, en tout cas c'est stable, ça progresse depuis janvier, ça va crescendo, on va en vendre de plus en plus.
Et vous affectez des moyens justement à la commercialisation ? Est-ce que vous faites des opérations de promotion, de la publicité, prospection de nouveaux clients ?
Eh bien à part être sur Facebook, non, on n'a pas grand chose, après on en parle, comme on est une structure d'amis, eh ben, on aime bien parler aux gens en amis, et donc pas être trop marketing, pas être trop... commerciaux. Après tout, on est dans le DIY, donc je pense que les gens peuvent se parler et se connaître du bouche à oreille. Voilà. Et puis, pour une autre raison, c'est qu'on a un petit budget et qu'on préfère le mettre dans les ingrédients de la bière pour faire de la très bonne bière. Et puis du coup, derrière, effectivement, il nous reste peu de budget pour la pub.
Oui, puis je suppose que vous avez investi massivement cette année dans le matériel, donc effectivement, il vous avez plus beaucoup d'argent pour la com.
Exactement, matériel, les gros travaux dans l'usine qui n'avait pas cette tête-là. Et puis, il faut nous payer quand même un peu, même si on travaille beaucoup plus que, que ce qu'on est payé, il faut quand même nous payer un petit peu. Voilà.
Et est-ce que la manivelle s'exporte en dehors du Diois ?
Alors oui, on est dans une cave à vin à Valence, dans le centre. On est dans un pub à Lyon, à Shop the Lug. Voilà, mais c'est souvent sur demande des gens, en fait. Hein. On ne va pas trop les chercher, mais par le bouche à oreille, il y a 2-3 personnes qui nous veulent, qui veulent essayer, qui veulent voir si ça se vend. Et puis bah, souvent, ils reviennent parce que ça se vend pas mal.
Merci, Émilie.
De rien.
Là, Franck est en train de nettoyer la cuve avec un cachet.
Non, pour l'instant, c'est jet d'eau, là.
Un jet d'eau ?
Pour l'instant, ouais. Ça suffit pour l'instant. Je vais décoller un peu les houblons qui sont collés. On va voir. Comme je vois rien, c'est trop facile.
Là, tu viens de mettre de l'eau dans un petit verre qui est sur le fermenteur. C'est ça. C'est pour quoi faire ?
Ça s'appelle un barboteur. Ça permet d'évacuer le surplus de CO2, le gaz carbonique, sans faire rentrer l'air extérieur. Ça, c'est, en fait, l'eau sert de filtre. Sinon, la cuve, enfin, tu vois, il y aurait trop de pression. La bière serait saturée. Si on avait ça, la bière sortirait saturée, c'est-à-dire avec déjà les bulles presque buvables, quoi. Mais on pourrait pas la mettre en bouteille, nous, on n'a pas le système pour faire ça. Donc on est obligé de faire évacuer le CO2 pour la garder plate, plus ou moins plate, pour pouvoir la mettre en bouteille après. Si tu veux, elle ne se gazifie pas. C'est-à-dire on évite ça. En faisant ça, le gaz s'en va en allant. Parce que la cuve monte en pression, parce que les petites bactéries qui transforment tout ça, font fabriquer du CO2 et de l'alcool. Donc le CO2 s'accumulerait dans la cuve, ça ferait trop de pression. Il ne pourrait pas partir, donc il reste dans la bière. C'est ça qui fait les bulles de la bière. Mais si on la laissait se saturer, on ne pourrait pas la mettre en bouteille, parce qu'il faut des machines très... Voilà, bon,
pour le coup, et puis la bouteille serait sous pression, vraiment.
Non, mais la bouteille, de toute façon, elle le sera, parce qu'après, on va regazéifier dans la bouteille, pour que finalement, elle ait des bulles. Mais on ne peut pas se permettre de laisser faire ça dans le fermenteur, parce qu'après, on ne pourrait pas le mettre en bouteille. Nous, on n'a pas les machines pour faire ça. Il faut des machines super sophistiquées pour faire ça. On ne l'a pas. Il faut que la bière soit plate, ou presque plate, pour qu'on puisse la mettre en bouteille et la refaire fermenter dans la bouteille pour pouvoir avoir des gaz. Et d'ailleurs, c'est pas toujours facile, parce qu'on peut très bien se tromper aussi, et qu'il y ait beaucoup trop de gaz, et que les bouteilles, par exemple, les bouchons explosent. Ça peut arriver. Si on mettait trop de sucre à la fermentation, par exemple, il y aurait trop de gaz dans la bouteille, ça pourrait... Souvent, c'est la capsule qui s'en va, c'est pas la bouteille qui arrive, mais enfin, bon, avant, la capsule s'en va, quand même. La capsule saute, quoi.
En fait, je vois que tu cours dans tous les sens, tu mets de l'eau, tu remplis des robinets, tu fais des échanges, tu nettoies, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi.
Ça dépend des moments. Là, en ce moment, non. Mais par exemple, pendant la filtration ou le lavage des drèches, là, j'ai plus de 3 ou 4 heures pour faire autre chose. Ben, je prends un peu de temps. C'est pas que je l'ai, parce qu'il faut étiqueter, grouiller les bouteilles qui sont de chambre chaude, les changer à la chambre froide. Il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est moins stressant, quoi.
Je suis même de trop, peut-être.
Non, ça va. C'est quand même du nettoyage, hein. C'est-à-dire que c'est pas. Je risque pas de rater quelque chose de capital, quoi. C'est juste qu'il faut pas que j'oublie que ce soit bien fait quand même. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas comme si, tu vois, comme si j'ai raté quelque chose qui pourrait tout faire.
Parce que ça vous est arrivé de rater un brassin, non ?
Pas vraiment. Disons, au début, on l'a pas raté, mais c'était quand même. C'était juste. C'était limite. On connaissait pas la machine et ça faisait beaucoup de manipulations. On se mélangeait un peu les pinceaux, bon voilà quoi. C'est pas forcément la recette comme on la souhaitait, quoi. Il y a tout qui on a oublié ça, on l'a trop fait, ça a pris trop de temps là, on a mis. Enfin bon, il y a plein de choses qui s'est passé, hein. Je me rappelle plus ce qui s'est passé d'ailleurs, mais.
Émilie, il y a 2-3 machines, est-ce que tu pourrais m'expliquer celle qu'on a en face de nous là ?
Eh bien, c'est l'étiqueteuse. La bouteille qui passe devant la cellule. Mais elle n'est pas branchée, donc je ne peux pas te montrer bien. Ça passe devant la cellule, ça fait tourner la bouteille, ça étiquette la bouteille, ça me la rend étiquetée. Le principe, c'est que ça étiquette les bouteilles toutes à la même hauteur, toutes droites, toutes bien. Ce qu'on ne fait pas, nous, quand on prend le temps d'étiqueter nous-mêmes, on met beaucoup de temps, et en plus, c'est étiqueté n'importe comment. Donc là, on est sûr que c'est à peu près standard. Ça va beaucoup plus vite, voilà. Parce que bon, passer du temps à faire de la bière, c'est bien parce que ça augmente la qualité. En l'occurrence, l'étiquetage automatisé, ça n'enlève rien à la bière artisanale. Donc autant automatiser ce qu'on peut automatiser sans enlever la qualité à la bière. Voilà. On part de ce principe-là, on automatise tout ce qu'on peut qui engendre pas, voilà.
On se tourne à une autre machine un petit peu particulière. De quoi s'agit-il en fait ?
C'est le saturateur en CO2 pour les fûts. Le but, c'est de faire des fûts de 30 litres un jour. Et les fûts de 30 litres, ils peuvent pas avoir la même fermentation que dans les petites bouteilles avec le sucre. Tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc on les sature en CO2. Et donc ça, c'est ce qui permettra de le faire.
Quand tu dis permettra, c'est-à-dire que vous ne faites pas encore de fûts.
On ne fait pas de fûts parce que c'est très cher à faire, il faut les acheter. Voilà. Donc pour l'instant, on ne peut pas, mais on va avoir des choses. C'est en projet, quoi. On a une partie des choses pour le faire, mais pas encore tout. Voilà. Et puis bon, on hésitait, on va le faire, finalement, on est sûr. C'est vrai qu'en fût, ça perd un petit peu la qualité. Donc on hésitait, mais il y a quand même une forte demande, donc on va le faire, tout en expliquant aux gens que la bière, elle est quand même meilleure en bouteille, quoi. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres machines dont tu pourrais me parler un petit peu, là ?
Ça fait la cuve de fermentation ?
Oui.
Ça fait l'embouteilleuse,
en non, on peut voir l'embouteilleuse.
Vite fait, alors ?
Ouais. On va dans le monte-charge ?
Oui.
Oh, c'est trop excitant ! Alors, nous sommes dans des sous-sols. Je vois énormément de cartons avec un certain nombre de bouteilles, voire comment t'appelles ça ?
Des caisses ?
Voire des caisses vides, des caisses pleines, des caisses vides. Et c'est relativement froid, c'est fait exprès, je suppose ?
Oui, c'est fait exprès parce que ça nous permet de faire les gardes, c'est-à-dire de mettre les bouteilles au froid entre les phases de fermentation. Et puis, on finit par cette phase-là aussi, la garde. Et puis ensuite, la conservation, elle se conserve mieux dans une atmosphère relativement fraîche et sans lumière. Donc là, c'est parfait.
Justement, commercialement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous pourriez suivre ?
Ah oui, on peut suivre, hein. On a le stock, on a prévu de faire du stock. Après, on sait que cet été, avec les touristes, les fêtes, certains festivals, ça va augmenter en demande. Donc, on a prévu la demande pour pas se retrouver comme l'année dernière, à pas pouvoir honorer les choses ou seulement à moitié, à dire aux gens, non, tu en veux 800, t'en auras que 400, c'était un peu embêtant. Donc là, à bon entendeur, si vous en voulez 800, vous en aurez 800.
Il y a encore une espèce de cuve là qui est devant nous, qu'est-ce au juste ?
C'est la cuve de mélange, c'est-à-dire qu'avant d'embouteiller, une fois que la bière a fait sa première garde, on la met dans cette cuve avec le sucre pour la fermentation en bouteille. Et donc il y a un mélangeur, ça mélange, et puis ensuite cette cuve, le contenu de la cuve est dirigé vers l'embouteilleuse pour mettre en bouteille.
Ah d'accord, c'est directement la bière, quand elle est prête, elle passe par là et avec un
circuit. Non, la bière, quand elle est prête, quand Franck ou Nico ont fini de la faire, elle va dans les cuves que tu as vues juste à côté, les cuves de fermentation, au chaud, en fait, dans les cuves chaudes. Quand elle a fini sa fermentation au chaud, ça dépend des types de bière, etc., on met la même cuve au frais, en fait. Elle a une centrale agricole, donc on la met au frais. Et une fois que cette garde-là au frais est finie, enfin, on l'embouteille. Et une fois en bouteille, elle aura la même phase, une au chaud, une au froid. On mettra les bouteilles pleines au chaud. On a une cuve, on a une salle exprès chaude là-haut. Et une fois qu'elle aura fini sa période au chaud, on la remettra ici au froid, la deuxième garde. C'est pour ça que c'est toutes des bières double fermentation, en fait.
On passe par là. Et là, on arrive, oh là là, une machine d'embouteilleuse presque digne de celle de Giants, en fait.
Oui, en toute petite, oui, c'est ça. C'est à peu près le même genre, avec des convoyeurs et puis des postes, voilà. Donc, c'est censé très bien marcher. Et en l'occurrence, ça marche pas très bien.
C'est une question de réglage, peut-être.
Donc c'est une question de réglage. C'est-à-dire qu'elle est arrivée sans notice de montage ni de réglage. Donc, on a dû tout faire un peu nous-mêmes. Heureusement que Nico a des compétences en méca, parce que sinon, on était foutus. Donc, c'est censé être une machine qui fonctionne à deux, un à l'entrée, un à la sortie, et puis qui fait tout toute seule. Et puis, en fait, elle marche pas du tout toute seule. Donc, on a besoin de faire attention au guide, de faire attention au convoyeur, de faire l'encapsuleuse nous-mêmes parce que l'encapsuleuse fonctionne pas. Donc voilà. Mais enfin, c'est des grands moments de rigolade, l'embouteillage ici. C'est neuf, fait sur mesure. Une société qui fait des embouteilleuses.
Et vous leur avez pas signifié que vous étiez qu'à moitié content de leur prestation ?
Oui, mais visiblement, ça les intéresse pas beaucoup. Donc il y a une laveuse, enfin une rinceuse, parce que c'est juste pour rincer les bouteilles qui arrivent là. Un convoyeur qui a mis jusqu'à la remplisseuse. C'est pour ça que c'est assez aléatoire, et certains vont dire que les bouteilles sont pas toutes remplies pareil, mais c'est vrai qu'on peut avoir un centimètre d'écart entre certaines bouteilles. On peut pas rattraper le centimètre sur chaque bouteille, on en embouteille des fois 1200 à la fois. Et puis ensuite, c'est censé être l'encapsuleuse, mais elle fonctionne pas, donc généralement c'est moi l'encapsuleuse. Voilà, à la main, les 1200 bouteilles par jour.
Ça procure des tendinites ?
Au début, oui, mais après ça va mieux.
Alors là, Franck est en train de se débattre avec un énorme sac de céréales pour le peser afin de le moudre. C'est bien cela, Franck ?
Oui, c'est ça. Je pèse avant de le moudre.
Pourquoi n'achetez-vous point le grain moulu ?
Alors, parce qu'il ne se conserverait pas. Ça a été fait, je crois. Hein. Ça a déjà existé. Hein. Même certains le font, d'ailleurs, les industriels, justement, qui ont plus de possibilités de maîtriser les trucs. Mais nous, on préfère acheter comme ça, parce que comme le café, si tu veux, pour avoir, pour que ce soit plus frais, pour que plus ça ne se dégrade pas. Voilà. Et puis, en plus, comme ça, on peut choisir notre mouture. Parce qu'elle est plus ou moins fine par rapport au filtre, par rapport à la recette. On va moudre plus ou moins gros pour que ça filtre plus ou moins vite, pour extraire plus ou moins de trucs. Enfin bon, c'est toujours. Voilà, on peut jouer surtout en plus, quoi. Surtout le tableau.
Donc là, il y a une petite machine, là, on enfourne le grain par-dessus.
Petit par rapport au reste de la machine, mais c'est quand même un gros moulin. Je sais plus combien il fait de kilo-heure, mais ça marche bien quand même. Hein. Là, j'ai mis une vingtaine de kilos, mais il va falloir que je mette pas loin de 150 kilos. Je ne sais plus combien, je pas regardé là, combien il m'en faut pour cette recette. Je vais répéter celle d'aujourd'hui, là. Et je ne sais plus, j'ai mon cahier là, mais je ne sais plus combien je vais mettre de grains. Enfin, je vais mettre à peu près 130.
Et quand on parle de grains, soyons précis, alors de quel grain s'agit-il?
C'est toujours, enfin, en tout cas, pas toujours, mais nous, c'est de l'orge. Hein. Orge maltée, c'est-à-dire de l'orge germée, qui a germé, et dont on a interrompu la germination à un stade bien précis, pour qu'il y ait le maximum de midon et tout ça dedans à transformer. Enfin, la principale opération, c'est de transformer les amidons en sucre qui vont fermenter, qui vont pouvoir fermenter. C'est pour ça qu'on fait l'infusion, et c'est ça le début de la recette, en fait.
Mais alors pourquoi parle-t-on de houblon dans la bière, alors, puisque tu mets de l'orge?
Mais les houblons, ça sert à amériser, à aseptiser aussi, et à aromatiser. Mais au départ, c'est quand même une infusion de céréales, enfin, ça peut être pas mal de choses, hein, qui font du bière avec de la banane. Après, il faut transformer les sucres contenus en sucre fermentescible. Il faut casser les chaînes d'acides aminés, tout ça, c'est des trucs, moi, je me rappelle toujours des cours. Mais grosso modo, maintenant, je sais comment faire, je m'en fous un peu. Mais voilà, c'est-à-dire, il faut les recettes, là, les paliers de température différents, très précis, tout ça, ça sert à transformer les sucres non fermentescibles en sucre fermentescible. Et alors, on peut choisir d'en transformer une certaine quantité, totalement ou pas, si on veut des bières plus riches en cycle, en ça, avec plus de corps, avec plus d'alcool, ou voilà, c'est toujours des choix à toutes les étapes, il y a des choix à faire, quoi. C'est ça que j'aime bien.
Alors Franck, donc ça fait un bout de temps que tu as commencé cette entreprise de bière ici même, à cette ancienne cémenterie. Ça fait combien de temps en fait?
Ça fait 3 ans que je fabrique de la bière ici. Disons que c'était plus petit volume, et puis les façons de fabriquer, c'était même quasiment c'est du bricolage, c'était de la bière familiale, bricolée, des expériences sans arrêt pour voir, décider ensuite quel matériel on allait acheter, dimensionner la brasserie, voilà.
Vous fonctionnez avec un réchaud à gaz et une grosse cuve de 100 litres.
150 litres pour faire 100 litres. C'était une gamelle, voilà, avec une tringle à rideau pour brasser. Et puis c'était un peu comme ça, quoi. La bière était bonne quand même, hein. Enfin,
oui.
C'était juste que c'était pas facile de reproduire toujours les mêmes recettes. C'était.
Et à l'époque, vous faisiez donc, comme tu l'as dit, beaucoup d'expérimentations. Vous en aviez retenu un certain nombre de numéros, parce que c'était des bières à numéros. Et il y en avait combien de numéros alors?
Oh, je sais pas comment on en a fait en tout, je sais que la dernière année on en a fait 95.
95 bières différentes.
95 bières différentes pour pouvoir expérimenter les mélanges de céréales, mélanges de céréales avec les différents houblons, tout ça, et puis après piocher là-dedans pour finaliser des recettes, pour en garder que quelques-unes, quoi.
De ces 95 expérimentations, vous en avez retenu combien?
15. 15 en gros, hein. On les fait pas encore toutes, on en fait que 10 là, mais on en a retenu 15. Plusieurs sortes d'ambrées, plusieurs sortes de blondes. Deux ou trois, deux sortes de brunes pour l'instant, plus une noire que j'ai pas encore fabriquée, puis une ou deux blanches.
Qu'est-ce que t'appelles une noire?
C'est-à-dire, c'est des recettes comme des bières anglaises, des stouts, ils appellent ça des stouts, je sais pas, j'ai trop l'accent, mais c'est des bières, les bières anglaises sont spéciales, il n'y a pas beaucoup de mousse, un peu acide, très noire, on voit pas à travers. Voilà, j'ai envie de faire ça aussi, moi, je trouve ça amusant, quoi.
Et alors, laquelle parle le plus, en fait?
Pour l'instant, les blondes, toujours, hein. Ça dépend des moments. Il y avait les ambrées. L'année dernière, c'était les ambrées qui partaient. J'en avais plus au début de l'été. Là, c'est moyen. Et puis, il y a une brune là, qui marche bien, une brune qui a un goût un peu chocolat. Pour l'instant, c'est ça.
Si on reprenait un petit peu le processus pour fabriquer une bière, alors tu pourrais nous faire un topo de A à Z en partant du grain, etc.
D'abord, il faut choisir le grain. C'est-à-dire, quel type de malt, hein. C'est de l'orge germée. Donc, on a arrêté la germination à un stade bien précis.
pour obtenir le maximum de rendement du grain. Si tu veux. Il se prépare à germer, il a son gros potentiel, et là on arrête. Enfin, eux l'arrêtent, pas moi, ceux qui font la malterie, quoi. Et ensuite, on a un grain qui a un gros potentiel en sucre, qu'on devra transformer en sucre fermenté cible. C'est des amidons, c'est comme ça. Après, nous, notre boulot, c'est de transformer ça en sucre qu'ils vont pouvoir fermenter. On va faire un mélange ou pas de plusieurs orges germées avec différentes torréfactions, différents stades pour avoir des couleurs. Donc ça, il faut choisir, pour une recette, il faut choisir son mélange de céréales. Moi, il a fallu que j'en fasse plein pour voir quel goût ça a, celui-là avec celui-là. Donc voilà, après, je fais ça. Après, on le moue. On peut le moudre plus fin ou plus gros. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut obtenir, de comment on veut que ça filtre ensuite, qu'est-ce qu'on veut retenir ou pas dans la bière. Donc on peut intervenir aussi à ce stade de la mouture.
J'ai vu que tu mettais des types de grains différents.
Voilà.
Tu sais, même si de l'orge, il y a des orges de différentes qualités. Il y en a des qui...
Voilà, il y en a plein, ouais. Surtout aujourd'hui, hein, ils se sont amusés à faire plein de choses, mais...
Mais c'est que de l'orge. C'est que de l'orge, mais c'est...
Ah oui. Bah oui, après on peut faire de la bière avec de la lentille, on peut faire de la bière avec n'importe quoi, enfin, tout ce qui est du sucre, du maïs, comme le fruit Cronenbourg. On peut faire,
la bière Cronenbourg est faite avec du maïs.
Maïs, oui, parce que ça coûte pas cher, il y a pas mal de sucre dedans. Bon, c'est pas bon, mais voilà. Après on peut faire de la bière avec de la banane, avec je sais pas quoi, en fait plein de choses. Nous on a choisi de faire traditionnel un peu avec de l'orge, voilà quoi. Il y a un peu de blé pour les bières blanches, avec du blé, mélangé avec du blé. Ensuite, on va commencer l'infusion, c'est-à-dire on va faire l'empâtage, on met cette espèce de c'est pas de la farine mélangée avec du gros son dans de l'eau tiède pour humecter un peu, humidifier le grain tout doucement. Et puis on commence les paliers, ça s'appelle, c'est-à-dire on choisit encore une fois là quelle température on va faire, pendant combien de temps, tout ça, ça peut changer. Si on peut très bien faire par exemple un certain degré, 10 minutes, mais si on le fait un quart d'heure, ça risque de changer encore. Bon, c'est qu'encore une fois, là, il faut intervenir, décider, choisir qu'est-ce qu'on voudra comme température et combien de temps on va y rester. Plusieurs paliers ou pas, on peut faire un seul palier, on peut en faire plein de petits, ça dépend des recettes, ça dépend des types de bières.
Comment explique-t-on qu'une ambrée soit différente d'une blonde alors c'est... On part du même grain.
On part du même grain, enfin voilà, enfin, en tout cas on va partir de malt, mais c'est, pour les ambrées on va choisir quand même des maltes un peu plus, qui ont un peu plus de goût, et puis surtout des maltes torréfiées. Des maltes qu'on appelle caramel, c'est-à-dire ils ont subi une petite torréfaction qui a fait sortir le sucre, une partie du sucre du grain, et qui l'a caramélisé. Donc ça c'est pour les ambrées. Et après, il y a différents stades jusqu'à des grains qui sont pratiquement brûlés, quoi, comme le café, pour faire les brunes. On fait des mélanges, tout ça. C'est pour ce que tu m'as vu faire, je faisais une brune, donc je mettais, j'ai mis un peu de tout, là. Quand je fais des brunes, je mets un peu de tout, tu vois, un peu des caramels, un peu des chocolats, ça s'appelle des blacks aussi, c'est des maltes très noires, très torréfiées, presque complètement brûlées. On met un peu de tout ça.
Et donc là, on était au palier.
On était au palier. Alors, quand on a fini nos paliers, on arrête donc la fusion, on monte en température, ça tente pour arrêter le travail.
Ça peut prendre combien de temps toutes ces opérations de la fusion ?
90 minutes, en gros, 2 heures, ça dépend. Des fois, il y a des recettes très spéciales qui vont durer pendant des heures où on remonte, où on redescend dans la température pour pouvoir remonter ensuite. Enfin, ce que je te dis, c'est vraiment à la louche, hein. C'est comme ça, quoi. Après, on va passer à la filtration, ça s'appelle le lavage des drèches. Alors, là, on passe dans une autre cuve. On transfère tout le mou, ça s'appelle, c'est-à-dire les céréales et le liquide, tout ça, dans une cuve spéciale avec un filtre au fond. On laisse s'écouler le jus. Donc les grains sont retenus par le filtre. Et on lave avec de l'eau chaude pour récolter, pour récupérer tout le sucre qui reste collé dans les grains. Donc on lave jusqu'à ce qu'on obtienne une densité ou un litrage, ça dépend comment on travaille. On peut très bien dire, voilà, j'ai dimensionné ma recette avec tant de kilos de céréales, donc je veux tant de litres. Et j'arrête quand j'ai ce litrage-là. Ou on peut faire une mesure pour dire, ah ben j'ai telle densité là, j'ai tel taux de sucre dans mon jus, donc j'arrête. On peut faire les deux. Donc le jus est repassé dans la cuve de brassage, là il va bouillir. On va l'amener à l'ébullition pendant environ une heure, à part encore une fois, c'est variable, hein, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ébullition comme on veut, forte ou pas forte. Et là, c'est là où on ajoute les houblons. Alors, dans un premier temps, on ajoute des houblons pour amériser. C'est-à-dire que ça peut être le même houblon, mais si on le met longtemps, je crois qu'au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus d'essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'arôme, il n'y a que de l'amertume. quelconque. Elle, se dégage dans le temps. Il faut au moins une heure pour dégager 30% de l'amertume du houblon. Donc on va bouillir pendant une heure, comme on veut. Et ensuite, on ajoutera encore du houblon pour aromatiser. Et là, moins longtemps, parce que sinon, on perd les essentiels. Donc ça se fait en deux phases, en fait. Ça, puis ça aide aussi à la conservation du houblon, parce que le houblon, c'est un peu antiseptique. Quand on en est là, on a presque fini. Voilà, après on fait ce qu'on appelle un whirlpool, c'est-à-dire on mélange tout ça, on remue très fort pour créer une sorte de vortex. On faisait à la main avant, mais maintenant les machines le font avec des pompes. Ça regroupe tout ce qui est, tous les houblons et toute la cassure, ça s'appelle, c'est ce qu'on ne veut pas garder dans la bière. Ça le regroupe au milieu sous la forme d'un cône. Et comme ça, on peut pomper que le jus sans pomper les houblons. On laisse bien reposer tout ça et puis on transfère dans le fermenteur. Alors là, la bière, elle est encore chaude, hein, souvent 80, 90 degrés. Donc il faut qu'on passe par un refroidisseur pour la mettre dans le fermenteur dans une température qui soit acceptable pour les levures, c'est-à-dire, disons, entre 17 et 28 degrés. Quoi.
Et c'est là que tu rajoutes des levures, justement.
Voilà, je les rajoute là. Ouais. Et puis là, il faut attendre entre 3 jours et 10 jours, disons, de fermentation. Ça dépend comment ça se passe, et encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut obtenir.
Puisque tu as mis des levures, quand tu dis que c'est un fermenteur, c'est que ça fermente.
Voilà, les levures vont se multiplier vraiment beaucoup. Ça va faire un gros champignon de mousse au-dessus, c'est la fermentation haute, ce qu'on appelle la fermentation haute, qui ensuite va retomber au fond. Alors quand c'est terminé, quand on estime que c'est terminé, alors ça encore, ça peut être à l'estime, comme on dit, c'est-à-dire bon, on peut voir, on dit bon ben voilà, ça bouillonne plus, on arrête là, mais on peut aussi prendre des mesures, c'est-à-dire on a pris la densité avant de la rentrer dans le fermenteur, et la prendre en allant un peu tous les jours pour voir la quantité de sucre transformée en alcool. La bière a assez travaillé, on arrête la fermentation ici, ou pas. Donc après, quand on a fait ça, il faut la faire chuter de température, enfin c'est bien, rapidement, et pendant peut-être une semaine ou 10 jours, enfin encore une fois, ça peut être 3 semaines, ça peut être comme on veut, hein, très froid, de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés par là, pour que se passe plein de choses, notamment que les levures se déposent et qu'on puisse ensuite après passer pour la mettre en bouteille.
Parce qu'il faut que la fermentation s'arrête quand même.
S'arrête, ouais. Et puis il faut aussi, c'est bien de la mettre au froid, ça fait que les levures se déposent. Et puis, ça c'est la première, mais après on peut la laisser encore en garde, ça dépend des types de bières, on peut la laisser encore très longtemps dans un local froid, parce qu'il se passe plein de choses, ça change les goûts, elle peut se clarifier aussi, il peut se passer plein de trucs. La bière en fermentant augmente sa température. Donc nous, on a un appareil qui fait du froid pour ne pas qu'elle dépasse certaines températures qu'on lui impose. Quoi. On veut qu'elle reste à 30 degrés, tac, elle va y rester. Et dès qu'elle a fini sa fermentation, ce matériel nous permet aussi de descendre très froid, c'est-à-dire autour de 2 degrés si on veut. Donc on peut, dans les fermenteurs eux-mêmes, laisser la bière encore une dizaine de jours à 2 degrés, et puis ensuite la mettre en bouteille ou la mettre dans une autre cuve qui va faire encore de la garde. Ensuite, c'est la mise en bouteille. Donc on fait la bière plate, on laisse le CO2 s'échapper, puis après on remet une petite dose de sucre dans la bouteille qui permet de, en rajoutant de la levure ou pas, qui fait une refermentation dans la bouteille qui va produire le CO2, donc les bulles qu'on aime bien. Dans la bouteille, ça travaille encore beaucoup. Ouais. Voilà, donc après ça, on les remet au chaud. Hein. Donc là, elles sortent de la cuve, elles étaient à 2-3 degrés. On met ça en bouteille et on les remet dans une salle où il fait chaud, entre 20 et 23 degrés, par là, ou 25, ça dépend des gens. Et là, donc du coup, la bière va remonter en température, ça va réactiver les petites levures qui vont manger le peu de sucre qu'on a remis et elles vont fabriquer du CO2. Et encore un petit peu d'alcool, mais bon, c'est pas beaucoup. Et elles vont fabriquer les bulles dans la bouteille. Donc là, encore une fois, il ne faut pas se tromper dans les doses de sucre, sinon, ou il n'y a pas de bulles, ou il y en a trop. Si c'est une petite bière qu'on a fait blanche ou blonde, on peut la boire tout de suite. Sinon, il faut là encore sortir de salle chaude, la remettre dans une salle froide pendant un temps indéterminé. Ça dépend des recettes, pour qu'elle soit bonne à boire. Il y a certaines recettes qui, quand on les sort de la salle chaude, on ne peut pas les boire, elle n'est pas bonne. Quoi. C'est pas qu'elle n'est pas comestible, mais elle n'est pas savoureuse. Il faut attendre que ça travaille encore dans le froid longtemps. Une recette qu'on boit au bout de 6 mois, là, parce que sinon, elle n'est pas équilibrée.
Est-ce que vos recettes sont stabilisées maintenant? Comme tu dis, à l'estime, à la louche?
Si, on a des recettes qui sont stabilisées, qu'on reproduit, qu'on peut reproduire. Et puis, moi, j'aime bien garder une partie aussi, comme ça, de...
D'expérimentation.
Un peu, pour que ce soit amusant, toujours fabriquer un peu quelque chose de nouveau, essayer de... Tous les ans, je pense que je fabriquerai...
Une cuvée spéciale.
Une cuvée spéciale, ouais, pour s'amuser un peu, voilà, changer les choses, essayer de... expérimenter avec des fruits ou pas, je sais pas, n'importe
oui,
quoi.
C'est ça.
Il y a tellement de trucs à faire.
Tu peux mettre à peu près ce que tu veux dans une bière, en fait.
Ouais, ouais. Moi, je suis pas trop pour les trucs très, très compliqués, là, avec du violette ou du genépi, tout ça. Mais j'essaierai bien une, par exemple, avec des petites cerises du coin. Il y a pas mal de choses à faire avec les recettes, juste les céréales. Hein. Céréales et houblon, il y a déjà tellement de trucs à faire que c'est déjà assez amusant comme ça.
Alors toi, Franck, tel que je te connais, tu n'es pas un spécialiste administratif. Je suppose que tu étais bien content de tomber sur des gens qui ont un peu pris toute la partie commerciale et administrative.
Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, j'ai essayé un peu d'auto-entreprise, tout ça, mais c'est déjà beaucoup assez compliqué, contraignant. Ça m'a vite saoulé, en fait. Donc là, c'est un bon arrangement. Je suis content. En plus, ils ont l'habitude de l'aspect technique, c'est-à-dire des machines, parce que dans l'hydroélectrique avant, je crois. Donc, c'est pas un problème de réparer une machine qui tombe en panne, c'est une bonne rencontre.
Vos ambitions, c'est quoi? C'est d'inonder la Drôme, le monde?
Non, c'est. Je crois qu'on va rester. On va bloquer la production à un moment donné. On va arrêter de produire. On va décider de produire tant de litres par an et on arrêtera.
Justement, là, je vois qu'il y a quand même énormément de bouteilles stockées.
Ça part pas mal, mais il a fallu mettre en place justement l'aspect technique, c'est-à-dire produire avec une nouvelle machine, tout ça. Donc, on n'a pas eu le temps de s'occuper de ce qui s'appelle la communication et tout ça. Enfin,
la commercialisation.
Donc, ça s'accumule un peu parce qu'on ne s'en est pas occupé, tout simplement. Mais là, ça démarre, ça y est. Hein. En plus, on a pris une petite boutique là, sur la place et tout. Donc, voilà. Ça va s'arranger, mais c'est vrai que pour l'instant, on a plus produit que vendu parce qu'on n'a pas eu le temps. Quoi.
Vous avez pris un local pour commercialiser la manivelle en plein centre-ville.
Ouais. Là, la manivelle sur la route de Romeillet, en fait, c'est que les gens qui habitent Romeillet qui s'arrêtent. Du coup, ça fait un peu surdimensionné pour le village de Romeillet. Donc, on a pris une petite échoppe, là, ouais, sur la place de la cathédrale. Ce sera plus facile pour nous et pour tout le monde de s'organiser. Ce sera quand même un dépôt, quoi, avec une dégustation possible. Très simple, quoi.
Je sais que tu habitais un moment à Mont-la-Huc et que tu as eu un certain nombre de contacts avec Hervé, qui était peut-être le premier historique à faire de la bière dans le Diois, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est vrai, Hervé, ouais.
Est-ce que c'est lui qui t'a donné envie de faire de la bière?
Ouais, c'est vrai. On allait boire la bière chez lui, j'habitais là-bas. C'était vraiment un plaisir de le voir faire, de voir comment il vivait.
Il continue,
je crois. Ouais. Il a eu quelques problèmes, mais je crois qu'il continue. Et ça m'a donné envie, c'est sûr. Ouais. Je crois que c'est lui qui a donné envie à pas mal de gens dans la région.
Hein. Oui, parce que si on fait le compte, il y a une véritable floraison de petites bières artisanales. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette floraison?
C'est bien, moi je trouve que c'est bien, c'est amusant. D'ailleurs, on pourrait essayer de faire une espèce de fête où on pourrait tous se retrouver, proposer chacun un peu notre production, quoi.
Et faire une dégustation.
Faire une dégustation, voilà, ça pas mal.
Alors, un autre aspect que j'ai noté, parce que vous êtes quand même vendu dans un certain nombre de points de vente dans la région, et en particulier à l'épicerie centrale, et vous êtes à 3,95€.
Ouais.
D'autres bières sont à 6€, si je ne m'abuse.
Pour moi, c'est un truc un peu populaire. Voilà, c'est une boisson simple. Enfin, je veux dire, ça se vend ces prix-là, ça me paraît... Ça me paraît bien, après, je sais pas. Pour moi, c'est pas une boisson de prestige, hein. Je sais pas, j'ai pas envie de faire ça, moi, tu vois. J'ai envie que ça reste comme ça. C'est possible de le faire à ces prix-là, on va continuer. Hein. Je sais pas pourquoi il y a une telle différence. Je sais pas poser la question. Je sais que nous, on a toujours vendu la bière à ce prix-là, et j'espère qu'on continuera de pouvoir le faire, quoi.
Dans votre installation, vous avez pensé aux considérations écologiques?
Un petit peu, ouais, on y pense, en tout cas, on essaye, hein. Nous, on aurait bien à voir... Ça, faire un truc un peu bien cohérent, je sais pas, il y a plein d'idées, comme récupérer les drèches, par exemple, c'est-à-dire les céréales à la fin du procédé, les récupérer, les faire fermenter, récupérer les gaz de méthane, par exemple, pour faire du chaud qui nous permettrait de chauffer l'eau et même pourquoi pas les bâtiments, enfin, les idées, il y en a, hein, ça se fait en allant déjà, là. Il y a du travail fait sur le bâtiment qui va être végétalisé, peut-être pourquoi pas... on y pense, on essaie. La prochaine, on va passer en bio, je pense.
Au point de vue des approvisionnements.
Céréales, ouais, l'approvisionnement.
Et en parlant d'approvisionnement, tout le houblon, toute l'orge que vous utilisez, ça vient d'ici ? Ça vient d'où ?
Ça vient de la malterie du château, c'est la Belgique. On a essayé d'intéresser des gens du coin à fabriquer du malt, enfin à faire pousser de l'orge de brasserie et puis de maltais, mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'amateurs. C'est classé Céveso, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, des risques d'explosion avec les silos, donc ça fait des contraintes économiques importantes. Des petits projets, ça n'intéressait personne. Ça va peut-être venir, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Le houblon non plus.
Pourtant, on pourrait
faire ça. On pourrait, c'est sûr. Quelqu'un qui s'installerait ici, qui déciderait de malter de l'orge, je pense qu'il pourrait carrément en vivre. Avec les brasseurs du coin, ceux de la vallée du Rhône et voire de l'Ardèche, tout ça, je pense qu'il pourrait carrément en vivre. Hein. Ça et des houblons, ce serait rentable, je pense.
Donc votre bilan de carbone, il serait plutôt positif dans la.
Je sais pas où on en est avec ça. Je sais pas. Je suis pas très au courant, mais moi, je sais pas si par exemple. Si la bière consommée sur le territoire national était produite que par des petits brasseurs, plutôt que par un gros comme Kronenbourg par exemple, si ce serait plus écologique, si ce serait mieux maîtrisé, c'est pas sûr. Peut-être qu'un gros comme Kronenbourg par exemple, qui fabrique des millions d'hectolitres, maîtrise mieux tous ces rejets et toute l'énergie consommée, qu'il va réutiliser la chaleur de scie pour faire ça et tout ça, qu'une constellation de petits brasseurs. Ça, j'en sais rien. C'est charmant d'avoir une constellation de petits brasseurs, c'est très bien, mais je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas.
Est-ce qu'on peut dire qu'en général, les petits brasseurs font quand même des bières de peut-être meilleure qualité que Kronenbourg, peut-être ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, ils le font parce que au départ, ils font de la bière pour faire de la bière. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais. J'aime bien ça, je m'amuse à faire ça. Je veux absolument faire de la bonne bière et je ne fais pas de la bière pour faire de l'argent. Après, les industriels, eux, on leur dit il faut être rentable et faire de l'argent. Bon, ben, si on leur demandait de faire de la bonne bière, je pense qu'ils pourraient largement en faire. Hein. Ils ont matériel pour faire ça. Mais sauf que
c'est un choix délibéré de ne pas faire de la bonne bière, par exemple.
C'est pas qu'ils veulent faire de la mauvaise bière, mais ils veulent plutôt faire de l'argent. Donc, pour faire de l'argent, il faut tirer sur ci, sur ça, utiliser du maïs et des grains crus plutôt que de l'orge maltais. Voilà. Donc, du coup, eux, ils gagnent de l'argent. C'est ce qu'on leur demande. Enfin, c'est comme ça.
Bonjour.
Nicolas Brand, qui a amplifié le projet originel de Franck, qui a donc beaucoup investi justement pour la transformer d'une petite brasserie à peine familiale à une brasserie artisanale. Première question, combien ça a représenté comme investissement ?
Bon, tout et pour tout à peu près, entre le rachat du bâtiment et puis les machines et puis tout ce qu'on a vu à monter entre stock et autres, en gros dans les 300 à 400 000 euros. Ouais. Mais je pense qu'on va être patient et que les clients feront le reste. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Peut-être notre notoriété et puis on verra pour le... Moi, je suis patient. Je suis quelqu'un de très patient et j'attendrai.
Mais tu as la trésorerie pour être capable d'attendre, oui. De produire, c'est-à-dire d'acheter des matières premières tous les jours sans avoir un retour financier digne de ce nom.
Oui, exactement. On a 2 ans en fait de fonds de roulement en fait, d'avance. Même si on se plante cette année, l'année prochaine, on sera là et la commercialisation sera d'autant plus simple. Parce que là, on aura le temps, et d'un, de se faire connaître, et deux, d'accueillir les gens comme il se doit ici aussi. Si le projet prend tournant là.
C'est-à-dire que vous avez un projet, effectivement, de faire une petite salle qui permettrait de faire des dégustations, voire plus des événements, peut-être.
Oui, des événements. Hein. Franck, il avait surtout dans l'idée de faire des soirées à Athènes, mais aussi, en gros, accueillir les gens avec de la musique. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on ne peut pas faire tout de suite parce qu'il y a trop de travaux à faire au niveau normalisation. La route passe à moins de 3 mètres du bâtiment, on va dire à moins d'un mètre pour être réaliste. Il n'y a pas de rambarde de sécurité et la mairie tique un petit peu sur ce genre de détails. Donc ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Très long, je pense. Et le jour où on pourra choper une vraie licence, licence 3, pour accueillir les gens et les faire boire sur le site, là, je pense qu'on aura tout gagné. Mais...
Alors, tu peux être un peu plus précis dans les 300-400 000 euros que tu as dépensé. Qu'est-ce qui revenait vraiment à la brasserie ?
À la brasserie, on a commencé par acheter le bâtiment pour pouvoir avoir notre crédit. Excuse-moi. Du côté matériel, on en a eu pour environ 100 000 pour la brasserie elle-même. Après, 70 000 entre tous les annexes, c'est-à-dire la ligne d'embouteillage, les autres cuves de fermentation et tous les raccords tuyauterie et autres, qui représentent quand même pas mal d'argent. On en a eu pour à peu près 75 000 euros de travaux sur le bâtiment, ce qui était quand même pas mal, mais on aurait pu faire mieux. Après, c'était les banques qui ne nous suivaient pas de toute façon. Monter au-dessus de 400 000, pour eux, c'était un projet inabordable. Du coup, on commence comme ça, et je pense que d'ici 3 à 4 ans, quand on aura amorti un petit peu l'ensemble de la brasserie, on va refaire un dernier investissement de 100 000 en fait, pour la végétalisation des toitures et un petit peu tout ce qui est à l'aspect esthétique du bâtiment et voir le terminer au niveau, qu'est-ce que je veux dire, façade, accès, parking et autres. Quoi.
Et quand tu parles de banque, c'est parce que c'est 300-400 000 euros, c'est uniquement de l'emprunt?
Oui.
Et aucun apport personnel?
Si, 80 000. 80 000 du bâtiment. En fait, c'est pour ça qu'on a racheté le bâtiment à la base. C'était pour avoir un fonds de roulement qui était propre à nous. Et ce qui nous permet aussi de durer 2 années consécutives en termes de rachat de malt ou autre, eau, énergie, etc.
Justement, est-ce que tu t'es fait aider ou est-ce que tu as des compétences particulières en matière économique
pour pouvoir... Bah, disons que j'ai bien étudié Franck la première année déjà, mine de rien. sur tout ce qui était... de la brasserie, après c'est venu un petit peu comme ça. Mon beau-père est assez calé dans le métier, donc il m'a bien aidé. On est passé par un comptable aussi qui était bien pointu sur le domaine. On a estimé en fait que le projet était viable parce que déjà il n'y avait pas beaucoup de brasseries dans le coin. Bon, depuis c'est autre chose, il y en a 2 autres qui se sont montées, mais je pense pas que le marché se soit fait amputer pour ça. Du coup, on est parti sur un principe bête, c'est que si la brasserie elle était montée actuellement comme ça, c'est-à-dire qu'on produisait 10 000 litres et qu'on n'en avait plus au 4e mois ou 5e mois de production, on pouvait largement faire plus. Donc, ce qui a été un gros atout au niveau des banques. Deuxièmement, le bâtiment a été racheté en partenariat en fait, entre mon beau-père et moi. Et que mon beau-père gagne plus d'argent que nous, ça a été aussi beaucoup plus simple pour faire balance dans les banques.
Donc grosso modo, le modèle économique de la manivelle est se rassurer à partir du moment où vous aurez le temps de vous occuper de la commercialisation des bouteilles produites.
Exactement.
C'est-à-dire ce qui serait tardé.
Déjà on ouvre le magasin sur 10 et là je pense qu'on va pouvoir se faire connaître. C'est vrai que l'accès à la route de Romeyer, il n'est pas si simple que ça, c'est un cul-de-sac, donc tout le monde n'y monte pas. Ceux qui montent, c'est les habitants de Romeyer, les planos, les touristes et autres. Après, nous, ça ne nous fait pas forcément vivre. Ça suffit presque, mais pas tout à fait. C'est vrai qu'avec le magasin de 10, non seulement on va pouvoir toucher tout ce qui est particulier, mais on va pouvoir informer les professionnels aussi qu'on existe aussi sur la route de Romeyer. Donc du coup, je pense qu'on va pouvoir aller bien plus loin en termes de vente.
Alors tout à l'heure, je posais la question à Franck qui m'a répondu de façon aléatoire sur votre politique tarifaire. Parce que quand on va à l'épicerie centrale, qui est centrale d'Andy, on peut constater que vous avez choisi de vendre votre bière à un tarif populaire.
Oui, exactement. Je t'avoue qu'on n'y avait pas vraiment pensé, parce que la première année, en fait, l'idée, c'était de celle d'Aurélien, c'était de partir à 3 euros. Et du coup, je pense pas qu'on puisse le changer comme ça. Déjà, Edin, à 3 euros, je pense qu'au coût en fait, où nous revient la bière ici, le bâtiment nous appartient, on l'a racheté que 80 000 euros, ce qui n'est pas forcément hyper cher pour ce genre de bâtiment dans le coin. Au niveau des charges, on est assez limité. On a racheté le matériel de la brasserie à 100 000 euros, ce qui était la moitié de la valeur neuve de ce qui était convenu. Et du coup, on arrive à sortir des bières pas chères, mais bon, au moins tout le monde y a accès. Et au moins, ce que j'aime bien dans le projet, c'est que qui que ce soit vient à la brasserie, choisit sa bière, et quel que soit son goût, il trouve sa bière à 3 euros. C'est aussi pratique en termes de comptabilité, de monnaie, et voilà, si tout le monde pouvait faire pareil...
Vous auriez pu la mettre à 4, ça fait un quart de rentrée à plus par bouteille.
Peut-être, mais bon, je sais pas, on change pas une équipe qui gagne, c'était à 3 euros l'année dernière, et ça le restaure.
Jusqu'à ce que mort s'en suive.
Il y en a une seule qui est à 3,50 euros, mais parce qu'on peut pas faire autrement, parce qu'après il faut aussi... La triple, elle demande quasiment presque le double de l'alimentation en malt en plein de choses, en levure, donc il faut aussi amortir le coût. Mais sinon, toutes les autres, moi je pense qu'elles resteront à 3. Si un jour les malteries nous augmentent de 200% les matières premières, on reverra peut-être le prix. Mais en attendant, tant qu'on peut rester comme ça, qu'on arrive à en vivre et qu'on ne ferme pas la manivelle, là on restera à 3, il n'y a pas de souci.
Quels sont vos objectifs? Vous comptez rester régional ou est-ce que vous allez exporter un petit peu?
Non, je ne pense pas. De toute façon, cette année, on devait faire 45 000 litres. On va visiblement en faire 35. Sur les 35 000, je pense que c'est largement écoulable entre 10 et Cré et les environs. Les petites festivités comptent sur nous visiblement. Au niveau local, on en vend largement. On vend actuellement presque à la brasserie entre 120 et 145 bouteilles par jour. Donc, si on fait le total entre les ventes à la brasserie, les professionnels et tout ce qui s'ensuit, hein, bien sûr. Mais ce qui reste à peu près correct, puisque pour être viable, il faudrait qu'on fasse 180. Donc on est quasiment dans les cordes au début de l'année, bon, c'était pas ça. Hein. On vendait 40 bouteilles par jour, c'était un peu craignos. Mais il y avait eu plein d'autres choses à régler. On a eu plein de problèmes sur les machines, il a fallu les régler. Et puis voilà. Maintenant, c'est parti. Je suis pas très inquiet pour la suite. Et puis, si les autres ont envie de rester à 4, qu'ils le restent, nous, on restera à 3.
Voire plus, hein. Il y en a qui montent à 6 à l'épicerie centrale. Hein.
Ouais. Ouais, pas tout à fait, 5.
Ils ont descendu, alors.
Ouais.
Sur le marché, on les trouve à 6,50.
6,50.
Après, c'est les intermédiaires, tu vois, les mecs, ils vont acheter des bières.
Nous, notre principe aussi, c'est, je pense, de se passer d'intermédiaire. L'épicerie centrale, ils ont une politique assez correcte, c'est qu'ils prennent pas énormément, mais du coup, ils font connaître tout ce qui est produits locaux. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est la deuxième année, en tout cas, qu'on travaille avec eux, ils n'ont jamais augmenté leurs tarifs. On a le panier de Romois qui est maintenant à Pointe-Carre, qui pratique la même politique de prix et qui vend au même tarif. Après, vendre une bière, comme tu dis, populaire, qui est à 3 euros, 12 euros dans certains restos, pour ne pas citer de nom, ça reste au-delà de ce qu'on peut rêver, quoi. Une bière, ça vaut être un produit excellent, ça reste une bière, c'est local, c'est pour tout le monde et ça doit être abordable pour tous. Et quand quelqu'un vient à la brasserie, il a une pièce de 2 plus une pièce de 1, il a une bouteille. T'as pas besoin d'aller faire un emprunt bancaire pour aller s'acheter des bières. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, mais
non.
Moi je trouve ça simple. 3 euros pour tout le monde. Et en plus, nous, notre politique, c'est 3 euros vraiment pour tout le monde, que ce soit professionnel ou particulier, c'est 3 euros pour tout le monde.
Ça a toujours été comme
pas
ça.
Pas de rabais, mais au moins tout le monde l'achète au même prix. Après qu'il y en ait qui veuillent la vendre 12, bah, et qu'ils essayent, la preuve c'est qu'ils ne la passent pas beaucoup et que nous, on en passe plus, hein, c'est tout.
En plus, on n'est jamais allé voir les supermarchés. Bon, après, ces gens-là, apparemment, ils négocient les trucs plus sévèrement pour pouvoir faire leur marge, tout ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple, d'aller les voir et d'essayer de vendre la bière 2 euros pour pouvoir la vendre en plus grande quantité. Moi, je m'en fous, j'ai pas envie de faire ça, ouais, par exemple. Si ça marche, tu vois.
Surtout qu'on n'en a pas besoin, en plus. On n'a pas créé la manivelle. Justement, c'est pour ça aussi qu'on était parti sur les 45 000 litres. C'était pour avoir à se passer de genre de discussions qui me mettent mal à l'aise. Ouais. Mais on vit dans un pays où, localement, on peut écouler largement notre production. Alors pourquoi aller chercher plus loin des poux qui servent à rien, quoi.
Ouais. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, je m'étais dit, si je fais 10 000 litres, voilà, je peux, ça me suffit. On est trois à vivre de ça. Donc ça fait 30, là on est à 15 000, ça fait 45 en gros, bon voilà. On a 15 000, mais il y a les frais, c'est vrai, le bâtiment, moi à l'époque j'avais pas tout ça, j'avais ma tringle à rideau comme je te dis, avec le chaudron de la grand-mère, bon, maintenant c'est fini tout ça, il faut un peu plus, bon 15 000 litres, produire 15 000 litres
par personne,
les ventes, ça me paraît... ça va, moi c'est une dimension qui me convient. Après, moi j'ai pas envie de faire plus que ça, par exemple, si on reste comme ça, ça me paraît bien. Tout le monde peut vivre, d'autres brasseries aussi peuvent faire ça. Il s'agit pas non plus de vouloir produire tout, plus et encore, et jamais s'arrêter pour faire de l'argent plus que de la bière, tout ça. Moi j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, je pense que c'est possible.
Moi aussi. Je suis pas pour faire des économies sur le salaire ou autre, nous on se paye, bon, pour l'instant c'est pas mirobolant, mais on arrive à en vivre. Mais si on peut rester comme ça et ne pas trop se développer pour rester une bière à 3 euros, moi je reste comme ça. Comme ça au moins tout le monde viendra. Et si dans 10 ans on nous dit bah, la manivelle elle est encore à 3 euros, bah, moi je créerai un grand victoire. Quoi.
S'enrichir, c'est un but, ça peut être un but aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Enfin, avec la bière, je pense qu'il y a moyen de s'enrichir. Hein. Voilà, on fait de la bonne bière au début, ensuite on réduit les matières premières pour la vendre le même prix, c'est les recettes. Ensuite, avec les mêmes matières premières, on double en rajoutant du sucre et puis on soigne plutôt l'étiquette. Du coup, on vend toujours le même prix. Donc il y a moyen de s'enrichir. Mais c'est pas très intéressant, parce que moi ce que j'aime c'est, par exemple, c'est faire de la bière, m'amuser à la faire, avoir le plaisir d'offrir à goûter une bonne bière, plusieurs.
En fait, il y a un projet qui s'appelle le projet Amertume en France, qui fait le tour de toutes les brasseries européennes et qui note en fait les bières avec une note sur 10. De toutes les brasseries de Rhône-Alpes, on a été noté 8,6 sur 10. Si on peut garder cette note, voire monter au-dessus de 9, et rester à 3 euros, voilà. Là je trouve que c'est un beau challenge. Après, se faire des pépettes en vendant la bière à 4,50, je trouve pas ça franchement un challenge, mais plutôt de la facilité.
Si on devait résumer vos assertions depuis une dizaine de minutes, la manivelle est une bière éthique.
Enfin, elle l'essaye.
Bravo. Précisons un petit peu pour nos auditeurs, vous êtes dans l'ex-cimenterie et qui aussi a un bâtiment qui permettait de faire de l'électricité, non ?
Non, pas en fait... C'est plus compliqué que ça, c'était un bâtiment qui était une usine de ciment au départ, qui a été créée en 1840. Ce ciment avait une particularité, c'est qu'il était sous-marin. Donc il séchait de façon extrêmement rapide sous l'eau. Donc c'était une des meilleures cimenteries de tout le sud-est et qui a permis de créer le port d'Alger et différents ports comme celui de Nice et autres. Ça a été fermé en 1890 pour des problèmes économiques en fait. Et de là, il y a eu une latence en 30 ans où il n'y a rien eu dans le bâtiment. Après, ils ont transformé ça en matériel frigorifique juste après-guerre pour alimenter tout ce qui était boucherie, charcuterie, poissonnerie, en plus glauque, les morgues et autres. Du coup, le bâtiment a été modifié, remodifié, amplifié, construit d'étage en étage. Il représente quand même une sacrée superficie. Et il y a des murs de plus d'un mètre. Et comme c'est un bâtiment qui a été fait pour le froid, il est sacrément isolé et il y a des murs très très conséquents. Et pour nous, installer la brasserie là-dedans, c'était vraiment, vraiment compliqué, quoi. Faire un trou dans un mur de 1 mètre d'épaisseur juste pour passer un tuyau, je t'avoue que c'est pas des plus simples. Mais en termes de qualité de bière, là, c'est le bâtiment parfait pour ça. Il est là pour conserver du froid, pour ne pas avoir de variation de température, ne serait-ce que pour faire ça. Après, on a des salles qui font presque 130 mètres carrés l'une. On a réussi à créer 4 salles, c'est-à-dire une salle de brassage, une salle d'accueil, une salle d'embouteillage et une salle de garde. Et la salle de garde, je pense que c'est un de nos gros atouts, parce que du coup, le vieillissement en bouteille se passe à la perfection. Et des bières qui vieillissent dans le noir, au froid, au frais, je veux dire, pas au froid, parce que c'est plus frais que froid, toute l'année, sans bouger, de façon assez stable, parce qu'à 5 degrés, j'estime que c'est assez stable, je pense que c'est un énorme atout. Le houblon déteste la lumière. On ne pouvait pas rêver mieux. De toute façon, même Franck, quand il est passé la première fois, il a dit « c'est là que je veux faire de la bière » et il n'avait pas tort. Parce que franchement, je n'y avais pas pensé sur le coup. J'avais d'autres projets pour ce bâtiment, qui étaient tout autres, dont je n'ai pas envie de parler là. Mais je pense que ce projet-là, c'est le projet du bâtiment, et il n'y en avait pas d'autres.
Oui, parce que vous avez ce projet de faire une espèce de salle de dégustation, voir si vous avez une licence de faire un petit lieu événementiel.
Ouais. Événementiel, ouais, avec des moments à partager pour tous. S'il y a... Nous, on a un peu, c'est pas une politique, hein. C'est un constat. Les gens, ils aiment bien se retrouver dans un coin et passer un moment sympa. Ils viennent pas que pour dire, bah moi, j'achète une bière. Ils peuvent venir se poser et faire la suite.
Ce qui serait intéressant, ça serait que les gens, les associations du coin, tout ça, s'autorisent, si tu veux,
de créer des événements ici.
De dire, bah, il y a ce lieu là-bas et on peut y aller. Il y a une salle, une belle salle. Organiser notre truc là-bas. La bière est fabriquée sur place. C'est pas forcément nous qui assurons toute la programmation. C'est-à-dire que le lieu, il peut vivre, mais c'est pas forcément une programmation qui sera faite par nous, figée, tout ça. J'aimerais bien,
c'est évolutif,
ça. Ouais. Du village, quoi. C'est-à-dire, les gens disent, il y a la salle de la brasserie là-bas, c'est la salle de la brasserie du village. Comme ça se faisait avant, hein, la brasserie, c'était tout le monde. On y amenait les enfants dans les brasseries parce que les vapeurs de houblon, disons, ça leur faisait du bien à la santé, tout ça. Donc il y avait une vie qui était en plus du brassage, tout ça, c'était une vie un peu de village. Voilà, ça pourrait être ça, il y a ce lieu-là, ça me plairait, ça.
Voilà. Tiens, voilà, Émilie qui revient, après avoir fait je ne sais quoi à droite à gauche.
Une livraison.
Tout à l'heure, tu m'as un petit peu branché sur le côté bio de cette manivelle.
Voilà, alors la manivelle, pour l'instant, elle est pas bio, parce qu'on a peu d'ingrédients bio. Bon, on a de l'eau, hein, n'est-ce pas ? Donc l'eau, c'est 95% de la bière et c'est de l'eau de source. Mais la malterie à laquelle on fait appel est en cours de conversion, donc nous aussi. Donc prochainement, dans les saisons à venir, on sera bio. Alors peut-être pas avec la certification parce que c'est coûteux et puis que ça sert pas à grand-chose. Mais en tout cas, nos ingrédients seront bio. Ajouter à ça la centrale hydroélectrique qui fournit notre électricité, on peut dire que la manivelle, c'est une bière propre.
Émilie, Nicolas, Franck, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis j'espère que ça donnera envie aux gens de tester cette manivelle.
Merci Louis.
Au revoir.
Au revoir.
C'est pas ça que je voulais. C'est un au revoir.
Ah oui, c'est
vrai. Et merci Radio Diwa.
Déambulation.